Chapitre 4. Saint Irénée et la foi de l'Église. Tradition et progrès. Le danger de la corruption de la foi. L'expansion du christianisme, alors que le monde religieux païen s'effondrait, a surpris et parfois atterré les païens, note Hamon. Moins de 2 siècles après la mort du Christ, les chrétiens sont partout, dans les villes, dans les campagnes, dans l'armée, dans le monde du commerce, et cela malgré les persécutions, la suspicion, l'hostilité de la population. « Nous sommes d'hier », écrit fièrement Tertullien à la fin du IIe siècle, « et déjà nous avons rempli la terre et tout ce qui est à vous, les villes, les îles, les postes fortifiés, les municipes, les bourgades, les camps eux-mêmes, les tribus, les décuries, le palais, le sénat, le forum. Nous ne vous avons laissé que les temples. » Cependant, très tôt se présente un danger plus insidieux que la persécution. La contamination et la corruption de la foi. À la fin du IIe siècle, un certain Montand prétendit être l'oracle du Saint-Esprit, voire le Saint-Esprit lui-même. Il annonçait le nouvel âge de l'Église, l'âge de l'Esprit, et l'imminence de la fin des temps. Accompagné de 2 femmes aussi exaltées que lui, qui avaient quitté leur mari pour le suivre, il se lança dans une campagne d'évangélisation à travers les provinces du Proche-Orient. Les foules accouraient de partout. L'on organisait des pèlerinages dans un petit village en Phrygie, au nord-ouest de l'actuelle Turquie, où la Jérusalem céleste était censée descendre. Un déferlement d'exaltation mystique parcourait les communautés d'Asie et se répandait aussi en Occident. Tertullien lui-même, que nous venons de citer, dont l'œuvre apologétique et l'apport théologique marquèrent les débuts du christianisme en Afrique, se convertira malheureusement au montanisme à la fin de sa vie. Toutefois, un danger autrement plus grave menaçait la foi, le gnosticisme, phénomène assez complexe et varié, dont les spécialistes s'efforcent encore de cerner les constantes et les thèmes essentiels. Dès le IIe siècle, des sectes commencent à surgir un peu partout, surtout en Orient, professant un syncrétisme de la foi chrétienne, avec des éléments hétérogènes empruntés à diverses sources, du judaïsme au platonisme, du dualisme zoroastrien aux croyances babyloniennes, à la Kabbale. Le but était de parvenir, non pas par la raison, mais essentiellement par une révélation réservée à une élite, à une connaissance des mystères divins qui assurerait le salut. La préoccupation essentielle semble avoir été le problème de l'existence et de la nature du mal. Le monde matériel, disait-on, n'est pas l'œuvre du vrai Dieu, mais d'un démiurge mauvais. Entre Dieu et le monde matériel, il y a toute une série d'intermédiaires, les éons, parmi lesquels on compte le Christ, dont on se plaît à calculer le nombre. On arrive à en énumérer 365 classes. Quant au corps, il a un caractère mauvais. Il tirerait son origine de la chute dans le monde de la matière d'un des éons célestes. Mais le monde est imprégné de parcelles divines, fragments de l'âme du monde, qui doit se délivrer en ressuscitant de l'ignorance pour revenir à l'unité primordiale. Si le montanisme était une aberration du sentiment, les différents courants gnostiques qui proliférèrent au second siècle étaient une aberration de l'intelligence et constituaient une menace bien plus insidieuse et plus dangereuse. C'était une effervescence de doctrines et de théories les plus extravagantes et contradictoires. Tous veulent être des maîtres, écrit saint Irénée. Aussi sortent-ils de la secte pour enseigner autre chose et en fondent une nouvelle, d'où une multitude de sectes qui poussent partout comme des champignons. Simoniens, Nicolaïtes, Ophites, Naséens, Sétiens, Caïnites, Valentiniens, Basilidiens, Marcosiens. Certains, comme Valentin, parlaient un langage proche de celui des chrétiens, et s'efforçaient même de concilier leur hérésie avec les évangiles. D'autres professaient les doctrines les plus invraisemblables, fruits d'imagination débridée. D'autres encore, plus marginaux, il est vrai, en arrivaient à exalter l'immoralité, à pratiquer la magie, voire les cultes sataniques. On sera peut-être surpris que des spéculations aussi farfelues aient pu séduire de nombreuses personnes et constituer un danger réel pour le christianisme. Mais peut-on vraiment s'en étonner lorsqu'en plein XXIe siècle, on a pu assister à l'immense succès d'un roman qui, en ressuscitant quelques brides de gnosticisme et en présentant comme des découvertes extraordinaires quelques évangiles apocryphes connus depuis l'Antiquité, a été pris comme pain béni par des millions de lecteurs, a troublé la foi de nombreux chrétiens et, chose plus surprenante, a même été salué par certains critiques comme œuvre d'une étonnante érudition. Et ceci malgré la considération pour le rôle de la raison que la culture des Lumières s'est efforcée d'inculquer depuis 3 siècles. Alors que le patrimoine commun de l'Église et des Lumières, écrit Vincent Aubin, est un certain respect de la raison, la croyance devant être soumise, sinon encadrée par elle, le roman de Dan Brown prétend s'affranchir, selon les mots même de l'auteur, du carcan rationnel de la recherche historique. Aussi étonnant que cela soit, cet affranchissement du carcan rationnel en plein XXIe siècle montre que la tentation du gnosticisme est toujours actuelle. Sans doute parce que, aujourd'hui encore, les conditions qui ont favorisé l'éclosion de ces sectes au IIe siècle sont réunies, que Daniel Robbs décrit si bien. Par sa mysticité vague, son pessimisme fondamental, son parfum de mystère qui faisait paraître banal et trop court le dogme chrétien, le gnosticisme était bien fait pour attirer les esprits dans un monde en perdition, dans une société profondément troublée, hantée par le désir de la délivrance, mais ayant perdu le sens du but. Saint Irénée. L'hérésie se répandait et beaucoup furent séduits. Cependant, l'Église gardait le cap et la plupart n'adhérèrent pas au nouvel enseignement. C'est justement un travail sérieux d'historien qu'entreprit Saint Irénée pour défendre la foi face aux nouveautés des gnostiques. Dans son œuvre principale, Exposé et réfutation de la fausse gnose, connue sous le nom de Adversus Aereses, il se proposa de décrire et de réfuter les différentes sectes gnostiques. Son œuvre est encore aujourd'hui d'une valeur inestimable pour la connaissance du gnosticisme. Saint Irénée était né probablement à Smyrne, en Asie mineure, entre 140 et 160. Enfant, il avait connu personnellement Saint Polycarpe, lequel avait été disciple de l'apôtre Saint Jean. De ce fait, il est un témoin privilégié de la tradition apostolique. Je puis même vous dire le lieu où le bienheureux Polycarpe s'asseyait pour converser, comment il entrait et sortait, le caractère de sa vie, l'aspect de son corps, les discours qu'il faisait au peuple, comment il racontait ses relations avec Jean et les autres qui avaient vu le Seigneur, comment il rappelait leurs paroles et quelles choses il avait apprises de leur bouche sur le Seigneur, et au sujet de ses miracles et de ses enseignements. Comment Polycarpe rapportait toutes choses en plein accord avec les Écritures, les ayant apprises des témoins oculaires du Verbe de vie. J'écoutais ces choses avidement, dès cet âge, par la miséricorde de Dieu sur moi, et j'en prenais note, non sur papier, mais dans mon cœur, et toujours par la grâce de Dieu, je les médite fidèlement. Vers 177, il est presbytre de l'église de Lyon. Envoyé à Rome avec une lettre pour le pape Éleuthère, pour une question concernant le montanisme, il trouva à son retour l'église éprouvée par la persécution, où périrent l'évêque Potin, Blandine et leurs compagnons. Nommé successeur de Potin, il gouverna l'église de Lyon avec un dévouement inlassable. Irénée était une âme droite, profonde, un esprit toujours accueillant et conciliant, tout le contraire d'un polémiste agressif. Cela ne l'empêcha pas d'intervenir avec clarté et décision dans la lutte pour défendre la tradition dont il est le témoin direct. Il était d'une grande probité intellectuelle. Il étudiait les textes même des gnostiques et il respectait chacun, fût-il son adversaire. Les gnostiques dont il combattait les idées furent eux aussi l'objet de son zèle pastoral. Il a toujours été bienveillant envers eux, sachant distinguer l'homme en tant que tel des erreurs qu'il peut commettre et qu'il faut dénoncer. L'unité doctrinale de l'Église. Le mérite d'Irénée est d'avoir esquissé le rôle de l'Église dans la protection et la transmission intègre de la foi. Le premier trait qu'il souligne, c'est l'unité doctrinale, malgré la réalité des déviations des sectes gnostiques. L'Église, dit Irénée, même si elle est dispersée par le monde, garde jalousement la foi et la doctrine, aussi bien en Germanie qu'en Orient, en Égypte, en Libye et au centre du monde, en Palestine, comme si elle était réunie en une seule maison. Il explique que l'unité de la foi tient au fait qu'elle nous vient des apôtres par une tradition ininterrompue. Contrairement aux sectes gnostiques qui sont nées par une sorte de génération spontanée, on peut reconstituer la liste des évêques qui se sont succédés depuis l'âge apostolique dans chaque communauté. Et comme il serait trop long d'énumérer les listes épiscopales de toutes les églises, écrit-il, il rapporte celle de l'église la plus ancienne, la plus connue, celle qui a été fondée par les plus glorieux des apôtres, saint Pierre et saint Paul, l'église de Rome. C'est ainsi que nous avons la liste des 12 premiers papes depuis saint Pierre jusqu'à Éleuther, son contemporain. Quelques années auparavant, au temps du pape Anicète, vers 160, un chrétien de Jérusalem, Hégésippe, avait fait un voyage d'église en église jusqu'à Rome, dans le dessein de vérifier la sûre tradition de la prédication apostolique. Lui aussi, il constate l'unité de la foi, et il s'applique à vérifier qu'elle descend des apôtres. Aussi donne-t-il la succession des évêques de Corinthe en remontant jusqu'à saint Paul, celle de l'église de Jérusalem en remontant à l'apôtre saint Jacques, et celle de Rome depuis Anicète à saint Pierre. Même constatation quelques années après, vers 216, chez un chrétien du nom d'Alpertius, qui, dans la célèbre épitaphe qu'il composa pour son tombeau, raconte comment il avait fait un voyage depuis l'Asie mineure jusqu'à Rome pour contempler la souveraine et voir la reine aux vêtements d'or, aux chaussures d'or. Sur toute sa route, dit-il, il avait observé que les baptisés partageaient la même foi et rendaient à Dieu le même culte. Néanmoins, le mérite d'Irénée dépasse celui d'un témoin et d'un ardent défenseur de la tradition. Ce qui est remarquable chez lui est qu'il a su concilier la fidélité au patrimoine de la foi avec l'effort pour mieux le comprendre et ouvrir des perspectives nouvelles. Certaines de ses intuitions, certaines visions pénétrantes, ont ouvert des voies au développement théologique des siècles postérieurs. Si bien que, comme l'écrit Amand, saint Irénée connaît aujourd'hui un regain d'actualité, et c'est justice. Il est peu d'écrivains des premiers siècles chrétiens qui aient moins vieilli et dont le temps fasse mieux ressortir la qualité. Les idées qu'il a défendues se sont imposées à l'Église. Ses vues sur l'histoire font figure d'anticipation. Sa théorie de la récapitulation dans le Christ est un remarquable développement des idées de saint Paul sur l'union mystérieuse de tous les chrétiens avec le Christ. Et elle a été évoquée par le pape saint Pie X dans le programme pastoral de son pontificat. Son regard sur le mystère de la Vierge Marie a permis d'approfondir le rôle spécifique de la Mère du Christ dans la régénération de l'humanité et est aujourd'hui plus que jamais d'actualité dans la réflexion que le Concile Vatican II a encouragée sur les relations entre Marie et l'Église. On peut dire que le mérite de saint Irénée a été d'avoir compris, non pas par une spéculation abstraite, mais par son amour de l'Église, le dynamisme interne de la foi. La foi progresse par la tension entre la fidélité à la tradition et l'effort pour en déployer la richesse et la vitalité. La tradition vivante. L'Église est, en effet, périodiquement confrontée à des situations nouvelles, et de ce fait, elle est amenée à expliciter le contenu de sa foi. Parfois, des hérésies surgissent, et il est nécessaire de préciser le sens des vérités qui sont mises en question. D'autres fois, c'est la réflexion théologique qui explicite le contenu de la foi, parce que, comme pour toute réalité humaine, un tant soit peu profonde, l'homme ne cesse de scruter le sens et le contenu du réel. D'autres fois encore, c'est la vie de prière, la contemplation, qui permet de pénétrer, comme par une expérience vitale, la richesse du mystère du Christ. Aussi, la tradition d'origine apostolique n'est pas une réalité figée, mais une réalité vivante et dynamique. Dans son discours d'ouverture du Concile, le 11 octobre 1962, le pape Jean XXIII expliquait que notre devoir ne consiste pas seulement à conserver le trésor précieux de la foi, comme si nous nous préoccupions uniquement du passé. Il est nécessaire que la doctrine certaine et immuable, qui doit être fidèlement respectée, soit approfondie et présentée d'une façon qui corresponde aux exigences de notre temps. C'est tout à fait dans le même sens que va l'enseignement de Benoît XVI. On sait avec quelle fermeté il s'efforçait de préserver le contenu essentiel de la foi, avec quel respect il se situait vis-à-vis de la tradition, ce qui lui a valu la critique souvent violente de certains milieux. Et en même temps, on voit avec quelle profondeur il scrutait le contenu de la foi pour que la lumière du Christ éclaire les exigences de notre temps, ce qui lui a valu des critiques venant d'autres milieux. Dans un célèbre discours prononcé devant la curie romaine, peu de temps après son élection, il expliquait que l'Église, tout en se tenant dans la ligne de la tradition, s'est vue obligée à plusieurs reprises de préciser le contenu de la foi. Face aux questions soulevées par le développement de la science moderne, face aux progrès réalisés par les sciences bibliques, lorsqu'elle fut confrontée aux problèmes posés par la révolution industrielle au XIXe siècle, ou aux nouvelles situations créées par les principes de tolérance et de coexistence sur lesquels se fonde l'État moderne. Fidélité à la tradition. Avant tout, il est essentiel de transmettre intact le patrimoine reçu, en se gardant d'introduire des nouveautés qui en changent le contenu. Regardons saint Paul. Il prévoyait que des erreurs surgiraient après sa mort. Aussi, dans sa prison à Rome, à l'approche de son martyre, il appelle près de lui son disciple le plus fidèle, Timothée, pour s'assurer que le dépôt de la foi sera conservé et transmis fidèlement. Ce que tu as appris de moi sur l'attestation de nombreux témoins, confie-le à des témoins sûrs, capables à leur tour d'en instruire d'autres. 2 Timothée 2:2. Avec force, il invite son disciple à ne pas céder aux nouveautés à la mode. Ô Timothée, garde le dépôt, évite les discours creux et impies, les objections d'une pseudo-science. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son règne. Proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais au gré de leur passion et l'oreille leur démangeant, ils se donneront une foule de maîtres et ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. 2 Timothée 4, 1-4. On dirait que ces pressentiments de saint Paul se sont réalisés à la lettre lors de ces dernières décennies. L'enthousiasme puéril et inconsidéré pour ce qui est nouveau, comme si ce qui est nouveau est en lui-même un progrès, et une garantie de maturité intellectuelle, a provoqué en quelques années et en de vastes secteurs une véritable dévastation du patrimoine immémoriable et vénérable de la foi. Tout a été jeté par-dessus bord, dogme, morale, liturgie. Des verroteries de pacotille, admirées naïvement comme expression d'un christianisme adulte et saluées comme signe des temps, ont été imposées, non sans arrogance, pour remplacer les splendeurs et la solidité de la foi. Finalement, cela alla assez vite. Divers signes montrent que, ici ou là, on revient à des attitudes plus raisonnables. Les jeunes, d'ailleurs, ne se sont pas trompés qui, par millions, ont accueilli avec enthousiasme Jean-Paul II, se sont tournés ensuite avec confiance vers l'enseignement de Benoît XVI, attirés par sa fermeté dans la foi et son amour pour la liturgie, et ont accueilli avec ferveur les paroles exigeantes du pape François sur la réponse à l'appel de Dieu. Mais tout n'est pas encore revenu en place, et les fruits de cet égarement irresponsable sont encore palpables dans la désorientation spirituelle des masses et dans la perte de repères éthiques de la société. Progrès et approfondissement. Ceci dit, les inquiétudes que de tels abandons suscitent ne doivent pas faire oublier que la fidélité à la tradition ne consiste pas à rejeter tout progrès et tout approfondissement en y voyant un détournement de la foi. Même les vérités définies dogmatiquement et proclamées solennellement par l'Église ont été reprises, méditées, précisées et approfondies, donnant lieu à de nouvelles définitions dogmatiques. Il suffit de penser, par exemple, au développement du dogme christologique. Un long travail de réflexion, de précision, d'analyse qui a duré du IVe au VIIe siècle a conduit à une formulation toujours plus précise des vérités sur la nature et la personne du Christ. La foi en la double nature humaine et divine dans l'unique personne Christ a bien été proclamée par les conciles d'Éphèse en 431 et de Chalcédoine en 451, et ces définitions demeurent comme un point de référence permanent. Et cependant, les conciles qui vont suivre, par les précisions dans la formulation et par l'approfondissement de certains aspects, sont eux-mêmes des phares qui éclairent le sens des définitions d'Éphèse et de Chalcédoine. Cela est vrai aussi pour le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II doit non seulement être interprété à la lumière des documents magistériels précédents, mais certains de ces derniers sont également mieux compris à la lumière de Vatican II. Cela n'a rien de nouveau dans l'histoire de l'Église, qu'on se rappelle par exemple que des notions importantes pour la formulation de la foi trinitaire et christologique, utilisées au premier concile de Nicée, hypostasis, ousia, virent leur signification profonde précisée par les conciles postérieurs. C'est une vérité très réconfortante que rappelait Benoît XVI dans l'exhortation apostolique Verbum Domini. L'Église, dit-il, vit dans la certitude que son Seigneur, qui a parlé dans le passé, ne cesse de communiquer sa parole aujourd'hui dans la tradition vivante de l'Église et dans l'Écriture sainte. Tension et déchirement. Malheureusement, cette profondeur du regard qui permet de reconnaître l'unité et la continuité du sens au-delà de la multiplicité et de la richesse de ses développements a parfois fait défaut dans certains milieux, provoquant des tensions et des déchirements aussi injustifiés que douloureux dans leurs conséquences. C'est par exemple le cas du document sur la liberté religieuse du Concile Vatican II, dont le rejet par certains milieux catholiques est à l'origine du schisme de ces dernières décennies. Le problème, en fait, est ancien. Saint Paul lui-même en souffrit. Lorsqu'il ouvrit à la foi nouvelle le monde païen en déclarant caduque la loi mosaïque, il dut essuyer d'innombrables oppositions et contrariétés. Saint Augustin aussi fut confronté à ce type de problème lors du schisme donatiste. À son époque aussi, des chrétiens pensaient que la barque de Pierre sombrait, puisqu'elle accueillait dans son sein ceux qui avaient défailli lors des persécutions, alors qu'eux-mêmes prétendaient garder le cap. Il croyait défendre la pureté de la foi alors qu'il brisait l'unité du corps du Christ. L'amour d'Augustin pour l'unité de l'Église, sa douleur face à un tel aveuglement et pourtant d'énergie spirituelle perdue, le faisait s'exclamer. L'Église, disait-il, n'est plus. Elle qui fut l'Église de toutes les nations a péri. Quelle affirmation éhontée ! Cette Église n'existe plus parce que tu n'es plus en elle ? L'Esprit de Dieu a prévu cette opinion abominable et détestable, pleine d'arrogance et de fausseté, fondée sur aucune vérité, éclairée d'aucune sagesse, insipide et sans sel, vaine, téméraire, présomptueuse et pernicieuse. Ce sont des paroles très fortes, la crise donatiste ayant provoqué des troubles et des désordres particulièrement graves, dégénérant même en véritable guerre civile. Mais elles peuvent toujours être salutaires pour ceux qui oublient que l'Esprit Saint assistera l'Église tout au long de son histoire, selon la promesse de Jésus à Pierre et à ses successeurs. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. La voix de l'Église. Comment donc savoir si le contenu essentiel de la foi n'a pas été altéré dans sa substance? La réponse, c'est le Christ lui-même qui la donne. En entendant la voix officielle de l'Église, c'est-à-dire celle de sa hiérarchie légitimement constituée, à qui il a promis son assistance et son indéfectibilité. Qui vous écoute, m'écoute. Sur l'Église repose, comme une bénédiction de Dieu, l'assistance promise à Pierre, peu avant la Passion. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Saint Irénée affirmait avec force que dans l'Église on trouve la pureté de la tradition, en vertu de son union avec le Christ. En elle est déposée la communauté du Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint, le gage de l'immortalité, le renforcement de notre foi et l'échelle qui nous fait monter vers Dieu. Là où est l'Église, là est l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce. Le critère dont nous disposons est sûr et incontestable. Le Seigneur nous l'a promis, « Je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles ». C'est une grave erreur que de se couper de l'Église visible, de ses structures, de sa juridiction, de l'autorité de son pasteur suprême. Le Seigneur l'a voulu comme une lumière qui éclaire, comme un phare qui guide. Il est bien triste de voir parfois des gens qui s'érigent eux-mêmes, avec légèreté et avec une prétention plutôt naïve, en dépositaires de la vérité. Saint Vincent de Lérins, au Ve siècle, a formulé ainsi le critère qui permet de discerner si la vérité de la tradition demeure intacte dans les développements qu'elle assume à travers les siècles. Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus. L'on doit s'en tenir à ce qui a été cru partout, toujours et par tous. Il peut être utile de relire son texte. Bien des gens auraient beaucoup à apprendre de ceux qui savaient unir la piété et la sagesse, l'intelligence et l'humilité. Ô Timothée, garde le dépôt, dit saint Paul. Qu'est-ce que le dépôt? Dépôt est ce qui t'a été confié, que tu n'as pas trouvé par toi-même. Tu l'as reçu, tu ne l'as pas inventé toi-même. Il n'est pas le fruit de ton génie personnel, mais d'un enseignement. Il n'est pas un bien privé, mais il appartient à la tradition publique. Il ne vient pas de toi, mais il est venu à toi. Tu ne peux pas te comporter à son égard comme si tu en étais l'auteur, mais comme un simple gardien. Tu n'es pas l'initiateur, mais le disciple. Il ne te revient pas de le manier à ta guise. Ton devoir est de le suivre. Peut-être, dira-t-on, n'y aura-t-il alors dans l'Église du Christ aucun progrès de la doctrine ? Bien sûr qu'il doit y en avoir un, et considérable, qui serait aussi ennemi de l'humanité et aussi hostile à Dieu pour essayer de s'y reposer, mais à condition qu'il s'agisse vraiment d'un progrès, c'est-à-dire de quelque chose qui augmente tout en restant elle-même, et non pas du changement par lequel une chose se transforme en une autre. Que grandisse donc et que progresse de toute manière possible la connaissance, l'intelligence, la sagesse, tant celle des individus que celle de la collectivité, tant celle d'un seul homme que celle de l'Église tout entière, selon l'âge et selon les générations, mais à condition que ce soit selon leur nature, c'est-à-dire dans le même dogme, dans le même sens et dans la même pensée. Dans le même dogme, dans le même sens et dans la même pensée, c'est dans l'Église que nous trouvons la garantie de cette continuité qu'Irénée, Hégésippe, Albertius avaient constatée au IIe siècle. Il est essentiel de respecter, aimer et défendre les prérogatives du successeur de Pierre. Elles sont la garantie de la vérité qui sauve et une preuve de l'amour de Dieu. Unis à l'Église, nous pouvons être en confiance. Nous sommes dans un port sûr et protégé. Et nous ne serons pas comme des enfants volubiles qui se laissent emporter ici ou là par tout vent de doctrine, comme ces hommes faibles, rudes et fidèles qu'étaient les apôtres. Malgré leur faiblesse, ils ont su reconnaître la voix du Seigneur et annoncer la foi au monde entier.
The sun.